Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotech
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Dominique Bourrel, historien, pour le livre « Clandestine » de Marie Yalovitch-Simon, paru aux éditions Flammarion, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. « Clandestine », c'est le récit d'une survivante, Marie Yalovitch-Simon, 20 ans en 1942, qui a fait le choix, pour échapper à la déportation, de vivre dans la clandestinité à Berlin tout au long de la guerre. Son témoignage a été recueilli par son propre fils, Hermann Simon, sur 77 cassettes enregistrées de 1997 à 1998, année de la mort de Marie Yalovitch. Elle y raconte, depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir jusqu'à la libération 1945, son épopée dans Berlin, le travail forcé, les rafles, les dénonciations, la violence et surtout les stratégies de survie qu'elle a mis en place, d'une audace et d'un courage peu commun. Dominique Bourrel, vous avez donc bien connu la famille, le fils, Hermann Simon, qui est donc à l'origine de la publication de ce témoignage, mais également Marie Yalovitch. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette famille? Comment vous pourriez nous la présenter?
Alors, c'était une famille, bien sûr, tout à fait extraordinaire et qui était d'ailleurs typique du judaïsme berlinois, c'est-à-dire c'est comme souvent des gens qui venaient d'ailleurs, hein, mais qui avaient une très grosse culture et qui s'étaient remarquablement bien intégrés au milieu intellectuel et culturel berlinois, puisqu'ils étaient, ils ont été tous les deux des professeurs. Le mari était même professeur de philosophie et Hermann Simon, le fils, a été pendant très longtemps du côté de la RDA, curateur dans à la Bibliothèque nationale. Et donc on a affaire à typique une famille d'intellectuels juifs berlinois, avec le côté humoristique, avec le côté critique, avec le côté des gens un peu inclassables. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, dans ce livre, il raconte bien d'ailleurs qu'elle n'a pas voulu parler de ses souvenirs, comme beaucoup de gens, d'abord parce qu'il fallait refaire la vie. En plus, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, ils habitaient en RDA. Donc c'était, j'allais dire, un double exil. Il fallait refaire une vie et dans un pays socialiste, où d'ailleurs il y a eu beaucoup de juifs athées, si quelque chose comme ça existe, ce dont je doute, comme vous savez, qui sont revenus en RDA. C'est-à-dire que c'était enfin l'endroit où on allait pouvoir construire le socialisme sur Terre. Et donc, bon, il y a des philosophes célèbres, comme par exemple Ernst Bloch, Hans Mayer, pas mal de textes qui sont connus en français maintenant. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus en RDA. Alors eux, ils n'ont pas besoin de revenir puisque elle est restée et elle est restée cachée. Et alors son fils a été pendant très longtemps, il s'occupait, je crois, de numismatique et d'archéologie et de textes très anciens. Et puis très vite, au moment de la chute du mur, mais un peu avant déjà, vous savez, Honecker, pour avoir un bon rapport, Honecker était le président de la RDA, voulait avoir de bons rapports avec les Américains. Et donc il avait commencé à réfléchir, à reconnaître la Shoah, et même a commencé à expliquer qu'il fallait peut-être payer des réparations, ce qu'il n'avait jamais fait, comme vous savez. Et là, Hermann Simon a été très important parce qu'il a fondé tout de suite un centre d'études juives qui s'appelle Zentrum Judaicum, Oranienburger Straße, c'est-à-dire là, en fait, où était...
C'est lui
le directeur de ce Zentrum Judaicum, et c'est là qu'était le véritable centre juif de Berlin. Alors, on l'a pas vu ou on l'a pas su pendant des années parce que c'était à Berlin-Est, ça intéressait personne. Il y avait qu'en RDA à peu près 500 juifs avec un âge moyen de 75 ou de 80 ans, mais la Hochschule für Wissenschaft des Judentum, leur grand séminaire de rabbin où enseignait Léo Beck, le séminaire de rabbin, un autre qui était aussi juste à côté, Artilleriestrasse, tout ça c'était à l'Est, vous comprenez? Et donc à ce moment-là, venu de nulle part, quand Honecker a dit, et ses adjoints ont dit, bon, il faudrait quand même faire quelque chose avec cette communauté juive, même s'ils avaient une arrière-pensée, Hermann Simon a été très très important, et c'est vraiment beaucoup dépensé. Et d'ailleurs, d'ici je crois 2 ou 3 mois, il va atteindre maintenant lui aussi l'âge de la retraite, et peut-être que vos auditeurs seront contents de savoir qu'il vient à Paris, je crois le 18 juin, à l'Institut Goethe, et il vient présenter aussi le livre de sa mère, et donc on pourra lui demander justement le travail qu'il a fait et comment il a réussi à la convaincre. Donc après, si vous voulez, c'est devenu des intellectuels, des profs, et ils étaient surtout spécialistes de philosophie juive, et donc ils ont publié des livres, des articles, etc.
Qu'est-ce qui fait, d'après vous, la spécificité de ce récit?
Alors d'abord, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. Deuxièmement, c'est que c'est quelqu'un qui a parlé longuement, qui du coup, une fois qu'elle a accepté de parler, très tard, une fois qu'elle a accepté de parler, avait encore toute sa tête, toute sa forme physique et intellectuelle. Et donc là, on a vraiment une véritable chronique depuis tout gamine. Hein. Et puis alors, c'est qu'elle est très directe, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous épargne aucun de ses problèmes, de ses difficultés, de ses amants, de ses avortements, de ses problèmes de savoir comment on va manger, avec qui. Et c'est vrai qu'on se prend quand même, c'est haletant comme récit, hein. On se prend au jeu, on la voit qui change de métro devant vous, qui va se cacher dans un coin de Berlin. Et alors aujourd'hui, ça a été, il y a déjà la deuxième ou la troisième édition à Berlin, parce que forcément les gens ont reçu ça l'année dernière quand c'est sorti, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, et encore une fois quelque chose d'assez rare, parce que sinon, c'est encore une fois des récits de drame, par exemple, Seule dans Berlin, cette fille qui s'est fait violer par les Russes, là, vous savez, c'est sorti aussi en livre de poche en France, et on a plutôt des témoignages de ce type-là, quoi, avec des drames, avec des martyrs, avec non pas que Maria Simon a eu une vie plus facile, mais comme elle a survécu, vous comprenez, et qu'on le sait, ça c'est vrai que le lecteur, si vous voulez, le sait bien, hein. Et donc je pense que la lecture n'est pas tout à fait la même, et ça c'est aux historiens et aux philosophes de réfléchir là-dessus, parce que c'est pas le même type de témoignage. Sinon, on en parlait tout à l'heure hors micro, il y a effectivement quand même des autres grands témoignages comme le journal de Klemperer, comme d'autres, qui sont absolument époustouflants, et mais où aussi on connaît la suite, vous comprenez, on connaît
ça
la fin,
tout,
on sait
bien sûr,
ça change tout à mon avis.
Là, le récit commence alors que c'est une jeune fille donc de bonne famille. Son père est avocat. Elle est bachelière et elle va se retrouver avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, je crois pas. Un peu plus tard, hein, en 1938, au travail forcé chez Siemens.
Voilà, parce qu'il faut bien expliquer que d'abord, il y a toujours ce qu'on sait, c'est-à-dire que les Juifs allemands ne croyaient pas que ça allait aller si loin, qu'ils étaient toujours soi-disant plus intégrés que les autres, que les Ostjuden, que les Juifs de l'Est, etc. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaissait aussi en France. Et puis, n'oubliez pas qu'en 1936, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été à Berlin. Et donc, pendant ce moment-là, la tension a aussi baissé. Et on voit bien, il y a même des gens qui sont revenus de Palestine, où ils étaient déjà partis, en disant, ben, vous voyez bien, ça va s'arranger. Et puis, en plus, comme on sait, au début, le nazisme voulait simplement expulser les Juifs. Donc, il demandait des permis de travail à l'étranger, etc. Et puis, à partir du moment, ce qu'on appelle, de manière un peu impropre, mais la nuit de cristal, comme s'il n'y avait que du cristal qui avait été cassé, comme si tous les Juifs vivaient dans du cristal, ce qui bien évidemment n'était pas le cas. Alors à ce moment-là, forcément, il y a eu un raidissement et on a envoyé tous les gens qui étaient valides et avec un certain âge travailler, faire du travail forcé dans toute une série d'officines comme IG Farben, à côté aussi dans les camps de concentration, il y avait des grandes usines. Et chez Siemens, on connaît un autre témoignage de quelqu'un qui était venu d'ailleurs à Paris, qui s'appelle Pizarek, qui nous a laissé une grosse collection de photographies. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui, après la guerre, et a travaillé en RDA. Comme il était juif et que c'était des gens d'un certain âge, un peu comme les Imons, ils pouvaient franchir le mur sans aucune difficulté. En plus, il n'y avait pas d'enjeu. Et au contraire, la RDA était fière de montrer qu'ils traitaient ces juifs, entre guillemets, normalement. Et donc, on a quelques témoignages comme ça de personnes qui sont allées au-delà, donc qui ont travaillé pendant vraiment des années. Elle raconte les problèmes avec son chef d'atelier, avec ses collègues, avec ses copines. Je veux dire, ça, c'est quelque chose. C'est très, très rare. Hein, on n'en a vraiment pas beaucoup, puisque après, soit les gens ont voulu oublier, soit ça n'a pas été écrit, ou les gens sont morts avant, etc. quoi.
Oui, ça c'est assez édifiant. Effectivement, ça va durer à peu près 3 années. Le moment où le tournant pour elle, donc je crois que sa mère est morte dans les années 30, son père meurt en 1941, elle se retrouve donc seule dans Berlin, elle trouve une chambre à louer. Les premières déportations, évidemment, ont commencé. Et elle arrive donc dans une nouvelle chambre qu'elle loue. Et là, elle reçoit une lettre de l'Arbeitsamt, c'est l'organisation qui gère le travail forcé. Elle est en deuil de son père, donc elle est en congé maladie, on va dire. Et cette lettre, manifestement, va lui signifier son retour prochain chez Siemens. Et là, comme le facteur ne la connaît pas, elle a une idée. Il lui demande où est si elle connaît Marie Helvig. Elle dit, elle est partie vers l'Est, écrivez, partie vers l'Est, destination inconnue. Et c'est ça, c'est son premier pas vers la clandestinité. Et c'est aussi un acte d'émancipation incroyable.
Absolument, ça c'est ce qui qui l'a sauvée en réalité. Oui. C'est-à-dire, c'est même un double ou triple mensonge, parce qu'après, il n'y a plus d'étoiles qui comptent, il n'y a plus. Elle a effectivement, elle devient, d'ailleurs, elle dit bien, j'ai rencontré les personnes qui m'ont donné une autre identité. Et là, on voit ce qui est aussi extrêmement intéressant, toute une série de personnes dont elle parle, qui sont toujours un peu ambiguës, quoi. Hein. Elle rencontre des gens dont on pouvait penser que les gens étaient des crapules. En réalité, ils se sont quand même tués, ou ils n'ont pas indiqué vraiment les adresses. Donc, on voit toute cette zone d'ombre qui, pendant longtemps, a été cachée, forcément, des deux côtés, hein, où on voit qu'il y avait quand même toute une série d'Allemands qui sont d'ailleurs être très judéophiles ou philosémites, etc., pour des raisons, alors souvent X ou Y, parce que c'était une femme, parce qu'elle était jolie, parce qu'elle venait d'un milieu privilégié, parce qu'elle n'était pas comme tout le monde. On voit bien, il y a un passage extraordinaire où on dit, mais celle-là, elle a des bas, celle-là, elle n'a pas de bas, et on va mettre... Je veux dire, c'est absolument incroyable. On ne parle plus de l'étoile jaune, mais on parle des bas et des robes, de manière à pouvoir se fondre dans la foule. Donc ça, je pense que pour l'historien, c'est quelque chose de très, très précieux, et c'est effectivement assez rare. Parce que, écoutez, en fait, après, en 45, si vous voulez, quand Berlin a été libéré, il y avait un maximum de 5000, 6000 juifs qui sont restés à Berlin, dont la moitié étaient des sous-marins, comme on disait, hein, oui. Donc n'avaient plus d'identité, n'existaient plus, et étaient surtout protégés par les couples mixtes. C'était le cas de Klemperer, donc, qui était à Dresde. Et donc, il y a très, très peu de documents comme ça. Et c'est pour ça que c'est un miracle, parce qu'en plus, si vous voulez, quand les gens ont eu ce type de vie, c'est pas tous des intellectuels, c'est pas tous des gens qui veulent écrire ou qui racontent ou qui parlent. Et nous, on a souvent vu des gens qui voulaient pas en parler, quoi. Fallait refaire sa vie. Moi, j'ai habité des années, comme vous le savez, à Jérusalem, parce que je dirigeais le centre de recherche français. Et très souvent, on essayait de faire parler les gens et on leur demandait. Les gens disaient, mais c'est impensable. Et les petits enfants, les gens de nos âges, on me disait, mais tu pourrais demander à ton grand-père, quand même incroyable. Et ça m'est, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et il y a parfois des circuits tout à fait extraordinaires. Mon ami Kishka, qui est un cartooniste et qui est quelqu'un qui fait de la bande dessinée, c'est comme ça qu'il a réussi à parler avec son père. Son père, pendant des années, refusait, avant d'aller dans les lycées, comme le père de Guy Strumza, aussi avant d'aller dans les lycées en parler, mais pendant des années, ça a été un blocage le plus total. Donc les enfants, là aussi, disaient, bon, on va pas, pendant 30 ans, continuer à bassiner les parents avec quelque chose dont manifestement, ça leur a fait tellement de mal. Et donc, vous voyez, je pense que ce livre est une marque et je ne serais pas étonné. Il y en a régulièrement. Hein, depuis 5-6 ans à Berlin, il y a régulièrement des livres comme ça qui sortent. Soit qu'on a trouvé, soit que les gens ont écrit, soit que justement, quand c'est des profs qui ont 90 ans, ils sont encore en pleine forme et intellectuels, etc. Donc, on fait passer une bande magnétique et puis voilà, quoi.
Mais c'est ça, c'est ce que vous disiez également, qui est très surprenant dans ce témoignage, c'est que Marie Halevitch, elle est donc, comme vous le disiez, une intellectuelle, et pourtant ce qu'elle décrit de sa vie à Berlin dans cette société post-Weimar, c'est pas les bas-fonds du tout, puisqu'en l'occurrence...
C'est pas tout à fait Dublin, mais un peu, hein. C'est pas loin d'Alexanderplatz, mais vous avez vu, elle explique pourquoi, parce qu'elle dit comme ça, on me verra encore moins. Vous comprenez, c'est tout à fait vrai. Parce que dans cette folie, c'était comme du temps des Khmer. Hein. Les gens qui avaient des lunettes, c'était des intellectuels. Donc c'était des juifs. Je raccourcis un peu. Mais elle dit bien ça. Elle dit il faut se fondre, y compris dans la pègre, y compris dans les gens...
La sexualité est très importante. Absolument. Elle est à un moment plus ou moins protégée par une prostituée juive qui travaille aussi pour la Gestapo.
Tout à fait.
Et puis elle se vend pour sauver sa peau, véritablement.
Absolument. Vous avez raison. C'est très intéressant comme témoignage. Et alors le fait probablement que c'est un témoignage qui arrive, j'allais dire en fin de course, c'est pas tout à fait gentil, mais vers 90 ans, non mais il n'y a plus de problème, il n'y a plus personne à sauver... Il n'y a plus de choses à cacher, etc.
Il y a son fils,
quoi.
Quand même.
Oui, c'est ça, mais le fils, il est très sympa. Vous allez voir quand il va venir, le Hermann Simon, il est très sympa. C'est la vérité historique. Il est historien, vous comprenez ? Donc, il préfère entendre ça plutôt que d'entendre des messages ou des choses qui sont fausses ou qui sont loin de la vérité. Puis, je suppose, ça, j'aimerais bien qu'il nous raconte, je lui en ai jamais parlé, mais comment il a fait ? Il raconte un peu dans la postface ou comment il a parlé avec sa mère. C'est vrai que c'est aussi compliqué. Imaginez-vous parler comme ça avec votre mère ou avec votre père, en disant à quel moment t'étais comme ça, qu'est-ce que tu voulais faire, est-ce que t'as joui, est-ce que ça t'a fait plaisir, qu'est-ce que c'est, je veux dire, même sans Shoah, c'est pas des questions qu'on pose à ses parents. Donc, je veux dire, si en plus on vous dit, comme vous le dites justement, c'est ça qui l'a sauvé, je veux dire, c'est quand même, comprenez. Après, on a tellement basculé immédiatement dans une vie totalement autre, en plus avec cette Bundesrepublik qui était d'un philosémitisme insupportable, ou de ces millions de membres du parti nazi en une nuit. Mmh. Les gens sont devenus des gens qui soi-disant avaient planqué des juifs, qui soi-disant aimaient des juifs, qui ont pris justement Martine Buber comme une icône et qui ont appris l'hébreu, etc. C'était tout à fait extraordinaire. Donc c'est quand même des situations extrêmement difficiles. Et c'est ça qui donne aussi, à mon avis, cet intérêt à ces souvenirs.
Et puis, les gens qu'elle rencontre, les résistants qui vont l'aider tout au long de la guerre, il y a Bruno Heller, qui est un gynécologue, qui manifestement a joué un rôle important. Il y a la communiste, Trude. Et puis, Yona Koch, qui, elle, est une protectrice avec un rôle un peu plus ambigu, une relation en tout cas.
Ça, c'est très intéressant, l'histoire de la résistance allemande, parce que, comme vous savez, pendant des années, on ne parlait pas de ça. En Allemagne, on prenait les gens pour des traîtres. Quand on a voulu faire les premiers anniversaires de von Stauffenberg et des gens qui ont voulu assassiner Hitler, ça a été considéré comme faire l'éloge de la trahison. Il a fallu attendre les années 75 ou 80 pour que les gens reconnaissent que vraiment c'était eux qui avaient raison et qui étaient du bon côté, jusqu'au fameux discours du président von Weizsäcker, mais qui je crois était il y a que quelques années, où on dit finalement c'était pas une défaite, cette défaite était une libération. Ça nous a libérés. Mais ça a été pendant des... Et alors en France, on a su assez vite quand même, parce que forcément, d'abord il y en avait qui s'étaient cachés en France, il y en avait qui avaient réussi à partir, donc on a eu assez rapidement une connaissance de cette résistance, et puis les enjeux étaient quand même un peu moins grands. Mais en Allemagne, cette résistance allemande a été entièrement occultée, enfin je veux dire par tout le monde presque, hein. Il y avait soit le discours sioniste qui était de toute façon, faut pas mettre les pieds
RDA,
en Allemagne.
En RDA,
c'était encore
pire. Ils ont été au pouvoir,
absolument.
En
RDA, si vous voulez, ça a été très simple. Ils ont dit les fascistes sont de l'autre côté. Hein, donc les gens qui... Nous, on ne paye rien et on n'a pas de problème avec les juifs parce que les salauds, c'était les gens d'en face. Donc forcément, vous ne pouvez pas après aller plus loin pour discuter de reconnaissance culturelle, de pitsouim, de shilumim, etc. Donc si vous voulez, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est justement ces allers-retours entre les gens qui font de la résistance, sa vie de tous les jours où quasiment elle vole, elle se cache, il y a toute une histoire formidable avec les tickets de rationnement, avec les choses, comment ils arrivent, parce que là, rien que ça, on se rend plus compte. Il faut vraiment avoir ce remède pour savoir que rien qu'avec les tickets, le nombre de choses qu'on avait déchirées, etc., on pouvait dire, mais vous en avez deux ou trois, donc il y a quelqu'un d'autre qui en profite, qui n'est pas déclaré, donc on va le chercher et on va le gazer. Donc, si vous voulez, dans ce récit, dans l'impression qui est au premier degré, il y a en réalité une masse de documents, de témoignages historiques très intéressants, et ça, je pense qu'on le doit à Hermann, parce que forcément,
il a posé les
Il a dû lui dire comment ça marche. Alors que les autres, ils sont pas censés savoir comment marchaient les tickets de rationnement en 43 à Berlin, si vous voulez.
Et puis il y a aussi des sympathisants nazis qui l'ont pris sous son aile. Enfin, je pense notamment à Froblaz. Ça, faut peut-être raconter un peu le contexte.
Oui, d'abord en plus, comme vous savez, à partir de 43, à partir de la défaite de Stalingrad, si vous voulez, les gens les plus raisonnables, s'il y avait des gens raisonnables encore, savaient que les jeux étaient faits. Hein, donc là, il y a tout. Et alors, le Berlinois, n'oubliez pas que Berlin, c'était Berlin la Rouge. Berlin n'a jamais donné la majorité au NSDAP. Berlin a toujours été un abcès de fixation, non seulement parce qu'il y avait la gauche, il y avait les travailleurs, il y avait le Parti communiste, mais c'est une ville à tradition de tolérance. C'est la ville qui a reçu les Huguenots, c'est la ville dans laquelle les Juifs ont été heureux, comme on dit parfois. Et donc, si vous voulez, il y a très vite des gens, en tout cas, à 43, il y en avait avant, mais à partir du moment où ça a tourné, très vite, elle donne des gens dans le métro, on donnait une pomme, on redonnait des chocolats, des choses comme ça. Parce que n'oublions pas que c'est un peu, on a tous lu Hannah Arendt, c'est un pays totalitaire. Un sourire à quelqu'un qui a une étoile jaune, c'est vous retrouver en même temps à Buchenwald et à Dachau avec quelqu'un à qui vous avez souri. Je veux dire, on n'a plus l'idée de ces choses-là. Mais un régime totalitaire, c'est vraiment quelque chose qui, non seulement là, avait décidé de gazer, de supprimer les juifs, mais aussi les gens qui les aidaient, les gens qui pouvaient être liés avec eux.
C'est ce que disait Victor Klemperer, c'est qu'à Berlin, les juifs pouvaient sortir sans étoiles jaunes, sans.
Mais oui, parce que c'est dans les grandes villes.
Courir le risque d'être dénoncé.
Voilà, ça c'est dans les grandes villes, c'est très grand, et encore aujourd'hui, vous voyez bien. Puis il y a le Tiergarten, et puis il y avait toutes ces banlieues ouvrières, un peu comme en France, hein, où c'est les ouvriers de la SNCF, les communistes qui ont caché les gens, quoi. C'est pas les bourgeois, hein, c'est les ouvriers, c'est les gens comme ça qui sans se demander pourquoi on les garde, un peu comme dans certaines familles catholiques chez moi, mes grands-parents. Le curé est arrivé avec deux petits-enfants. Comme je dis avec un sourire, ça aurait pu être des Canadiens, des Saoudiens, des Arméniens. Je veux dire, il fallait les cacher. Et donc c'était exactement. Et alors à Berlin, il y a cette culture là, il y a cette culture de résistance que vous avez encore aujourd'hui dans l'humour berlinois, dans l'argot. Il y a cette culture de résistance, et c'est un endroit où effectivement, si on fait la comparaison, on a sauvé plus de Juifs. Et puis c'est une grande ville. N'oubliez pas, les grandes villes, c'est quand même toujours plus facile de se cacher dans une grande ville. Il y a le métro, il y a des usines, vous pouvez changer de pratiquement d'aspect d'identité sans difficulté.
Donc cette culture de résistance, alors, entre guillemets, là, puisqu'en l'occurrence cette Frau Blas est clairement pro-nazie, mais elle va quand même allègrement accueillir cette femme dont elle sait qu'elle est au minimum à demi-juive. Elle ne sait pas toute la vérité, mais elle se doute parce qu'elle-même est une sorte d'anarchiste en rébellion contre la société.
Voilà, il y a de toute façon des gens qui, sans aimer les juifs, détestaient encore plus le nazisme. Et puis vous comprenez, attention, en 1943 et 1944, les bombes commençaient à tomber, c'était dévasté, c'était plus... Il y avait des chansonniers qui faisaient des jeux de mots absolument incroyables. Les gens disaient « Heil », et puis ils disaient « Mais Heil comment déjà ?» Donc vous voyez, enfin, je veux dire, ça c'est très berlinois, vous comprenez ? Alors forcément, les gens ils sont là, oui, restez pas là, et ça c'est quelque chose qu'on va trouver jusqu'à la fin, et à Hambourg aussi, à Munich un peu moins, puis il y en avait moins, mais à Berlin, absolument.
Elle compose aussi, Marie Yalovitch-Simon, un portrait de cette communauté de juifs clandestins. Alors un petit portrait, puisque de fait... c'est une communauté qui était réduite et surtout qui ne communiquait pas
c'est
forcément.
Ça, on avait pas, c'est la première des choses, c'était de ne pas le dire. Donc de temps en temps, ils se croisaient. Et puis contrairement à ce que les gens pensent, comme il n'y a pas ni de type ni de race juive, il y avait quelques grands blonds aux yeux bleus dont jamais on aurait pu penser qu'ils étaient juifs et qui en réalité animaient des réseaux de résistance, etc. Alors je pense que ça, c'est aussi, vous faites bien de le remarquer, on a une espèce de photo d'instantané sur une vie dans un temps de détresse et comment la vie est plus forte, quoi. Comment il y a de toute façon des gens qui décident que ça ne sera pas eux, quoi. Hein, quand on examine justement les documents sur ces gens qui ont travaillé chez Siemens et dans ces grandes usines, on voit bien qu'ils le font en disant mais ils nous auront pas, quoi. Tant pis, on va travailler, on va rester là. Et c'est la fameuse histoire de Rosenstrasse. Vous vous souvenez de ce groupe de femmes qui disent on veut nos maris, on veut venir. Il y en avait qui sont venus qui avaient même pas de mari à l'intérieur, mais qui se sont dit on va quand même faire bloc parce que comme ça, ça va permettre de faire sortir les gens. Et ça a marché, bien évidemment.
Il y a même, donc, dès 1938, du sabotage dans cette usine. En tout cas, ces femmes qui travaillent chez Siemens savent qu'à un millimètre près, l'écrou va plus ou moins fonctionner.
Tout à fait. Et... Ça, c'est les villes de la résistance. Vous avez ça en France aussi tout de suite. Hein. Les gens qui,
mais là,
toute
elles
ne façon...
sont pas résistantes. Oui. Elles sont au travail forcé. C'est ça qui est incroyable.
Oui, mais c'est un travail forcé. On voit bien dans son livre en disant que c'était peut-être une planque beaucoup plus sûre que d'être comme ça, où on pouvait toujours être demandé dans la rue, de savoir... Et puis, encore une fois, les gens avaient besoin non seulement de travailler, mais l'occupant, c'est-à-dire les nazis, avaient besoin de cette force de travail. Hein, on sait bien, quand on lit ça, quand on lit les textes, bon, il y en a plein, Shaul Friedlander, et les gens, ils font la liste en disant surtout, vous me les laissez, c'est l'effet, souvenez-vous de la liste Schindler, en disant, enfin, vous n'allez pas me les enlever, ils sont mes juifs, et ils bossent pour moi, et on va pas... C'est tout à fait extraordinaire, et je pense que ça a été beaucoup plus, faut pas exagérer, mais ça a été plus répandu qu'on ne le pense. Mais il faut 40 ou 50 ans pour que cette parole-là, à mon avis, des deux côtés. C'est-à-dire des gens qui disent, de toute façon, nous, on était opposés au régime. Donc, qu'ils soient juifs ou pas juifs, on ne voulait pas marcher dans la combine. Je signale justement que les catholiques, par exemple, les catholiques allemands, ont été aussi les premiers à se retrouver à Dachau, à Buchenwald. Ça a été immédiat, hein, le premier mois. Avec les protestants, comme chacun sait, il y avait eu des négociations, et bon, il y avait un concordat, mais les catholiques ont très très vite été, presque malgré eux, du bon côté, quoi, c'est-à-dire du côté de la résistance. Et donc, je peux m'imaginer que dans ces usines, dans ces endroits où non seulement on avait besoin de force de travail, il y a dû aussi avoir ce sentiment-là, en disant on ne peut pas les traiter comme ça, on va faire l'impossible, et pas seulement pour des raisons économiques. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire maintenant, c'est quelque chose qu'on a commencé à dire il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, et qu'on ne pouvait pas dire avant, quoi.
Oui, on le voit dans l'usine, elles essayent de mettre de leur côté des contremaîtres à rien, hein, puisque c'était le terme utilisé à l'époque. Enfin, il y a aussi une sorte de tentation de rendre certains des contremaîtres de leur côté, de les faire devenir anti-nazis. Enfin, c'est un... Écoutez, j'invite surtout vraiment les auditeurs à découvrir ce livre, donc Clandestine, de Marie Yalovitch-Simon. Je vous remercie beaucoup, Dominique Bourrel, d'être venu. Le livre est donc paru aux éditions Flammarion.
Et le 18 juin, on va pouvoir parler avec le fils, avec en traduction simultanée à Paris,
au Goethe-Institut. De ce livre. Voilà. Très bien. Donc paru aux éditions Flammarion avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et retenons donc cette date du 18 juin. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.